De retour à Parlons-nous, on vous donne la parole ce soir. Évidemment, on va ouvrir les lignes un peu plus tard au courant de l'émission. En fait, aux alentours de 19h, on va vous poser la question, avez-vous déjà empêché un proche de conduire en état d'ébriété? Je vous rappelle les numéros pour nous joindre. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique maintenant, 514-790-9850. Partout au Québec, c'est le 1-866-790-9850 ou encore par texto, le 98-985. Mais avant, on veut vraiment vous présenter cette entrevue qui nous a beaucoup touché ce matin, celle que mon collègue Paul Arcand a fait ce matin avec Jean-Dominique Lemieux. Lui a perdu sa conjointe, sa fille, son beau-fils, son beau-père, qui ont été fauchés malheureusement mortellement par un récidiviste de l'alcool au volant. Ça s'est passé jeudi dernier dans la région de Québec. Évidemment, ce qu'il a dit aujourd'hui, en fait, il ne veut pas que ces décès-là soient survenus en vain, en disant, ben, écoutez, si par mon témoignage, je peux empêcher d'autres familles de vivre ce que je vis présentement, ben, ça sera ça. Puis empêcher qu'il y ait d'autres personnes qui commettent l'irréparable en prenant de l'alcool et en décidant de prendre leur véhicule. Alors, je vous laisse entendre tout de suite cette entrevue de Jean-Dominique Lemieux.
4 personnes sont décédées dans un terrible accident. Le responsable de l'accident, Éric Légaré, 43 ans, récidiviste de l'alcool, a donc détruit une famille. Hier, beaucoup d'entre vous avaient réagi en partageant, lors de la tribune téléphonique, par courriel, des expériences similaires. Un homme m'a écrit, perdu sa femme, son fils a été grièvement blessé. Une autre, qui avait 7 ans à l'époque, a vu sa mère mourir dans un accident, et je parle dans tous ces cas-là, d'accidents causés par des conducteurs avec faculté affaiblie, par l'alcool et par la drogue. Jean-Dominique Lemieux, lui donc, a perdu sa conjointe Shelley, sa fille Emma, le garçon de sa conjointe Jackson et son beau-père James, dans cet accident. Il est avec nous ce matin. Monsieur Lemieux, bonjour.
Bonjour.
D'abord, nos sincères condoléances, et je sais que les pensées des auditeurs et des auditrices sont avec vous ce matin. Vous êtes dans quel état psychologique? Êtes-vous en colère? Êtes-vous enragé? Êtes-vous abattu? Comment vous allez d'abord?
C'est assez difficile à décrire l'état dans lequel je me sens, dans lequel je suis. Là. C'est un petit peu surréel, là, qu'est-ce qui se passe présentement. Là. Donc, j'ai l'impression, je surfe un petit peu sur une vague d'énergie, puis d'amour, puis de support de la Ville de Québec. Et puis, c'est en train de s'étaler à tout le Québec. Puis, j'ai reçu des milliers de messages de support, de soutien, de même partout au Canada et à l'extérieur du Canada dans les derniers jours. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé à regarder en avant. Puis, ouais, ça m'a beaucoup aidé, c'est certain.
Vous avez partagé ces moments-là aussi avec le public par les réseaux mm-hmm. sociaux. Je pense, entre autres, les moments avec votre fille, le fait que votre fille, comme vous l'avez dit, permet à d'autres enfants de vivre grâce au don d'organes. C'était important pour vous de faire cette démarche-là?
Ouais, j'étais pas quelqu'un qui mettait grand chose sur les réseaux sociaux là. Historiquement, mon dernier post remontait peut-être 7 ans. Là. Mais je sais pas, j'avais le besoin de m'exprimer, puis ça, je regrette pas de l'avoir fait. Ça m'a aidé énormément. Puis
qu'est-ce que vous aviez besoin de dire?
Ben, si je peux aider à ce que ça se reproduise plus. Ou ça, c'est simplement ça le message. On peut rien faire pour ce qui s'est passé avec ma famille. Je peux rien faire, personne peut rien faire. Mais on peut faire quelque chose pour que ça arrive plus à d'autres familles.
C'est en vous écoutant, en lisant ce que des auditeurs m'écrivent, qu'on réalise, c'est arrivé à beaucoup, beaucoup trop, mais beaucoup de familles au Québec.
Oui.
Vous souhaitez quoi? Des lois plus sévères, des contrôles plus sévères, des peines plus sévères?
Ben, c'est peut-être les lois, les peines, je pense que c'est du réactif. Pour moi, ce qui est important, c'est peut-être un changement de perspective ou de culture par rapport à l'alcool. Tu sais, pourquoi on vise presque d'être en dessous de 0.08, il faudrait peut-être viser de zéro plutôt. On vise zéro, puis on fait du mieux qu'on peut pour arriver le plus proche possible ou rester à zéro. C'est comme aller à l'école. Est-ce qu'on vise 60 ou on vise 100?
Si j'ai bien compris le contexte, votre conjointe revenait quoi d'une activité impliquant son fils?
Donc, mon épouse est partie chercher les enfants à l'école.
OK.
Simplement. Puis en revenant de la pratique de football de Jackson, puis de l'école de ma fille, elle s'est fait frapper de plein fouet par un chauffeur.
Il était quelle heure quand c'est arrivé?
5h30 l'après-midi.
Et donc, il était en état d'ébriété. Puis c'est un récidiviste oui. d'alcool au volant.
Exact.
Quand vous avez appris la nouvelle, ça a été quoi votre réaction? Comment vous l'avez su d'abord, ce qui s'est passé?
J'étais avec ma belle-mère. Ils étaient de passage à Québec, qui viennent du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Je suis en train de me faire à souper. Puis, elle s'est un peu inquiétée parce qu'il devait déjà être rendu à la maison. Il remontait, il faisait une petite commission, puis il s'en venait à la maison. Normalement, il aurait dû arriver avant moi. Et puis, elle s'est un peu inquiétée. Elle a dit, bon, écoute, je vais les rappeler. Elle a appelé son mari, puis c'est la SQ qui a répondu. Donc, et puis là, c'est le jeune de la SQ parlait pas nécessairement un anglais. Puis il était sous le choc, là, probablement, en plus. Là. Donc, j'ai pris l'appareil. Puis c'est là que j'ai... la jeune de la SQ m'a dit, rendez-vous à l'enfant Jésus. Il y a une accident très grave. Il y a des morts.
Comment on se rend là, quand on sait qu'il y a des morts, puis que ce sont... puis vous aviez pas des détails à ce moment-là?
Non. Non, j'avais aucune idée c'était qui. J'avais aucune idée c'était qui. Ils m'ont demandé c'était qui. Jackson Fortin par rapport à moi. Donc, j'ai dit, c'est son beau-père. Il est dans ma vie depuis qu'il y a 2 ans. Ça fait 12 ans que je suis son beau-père. Donc, première réaction, j'ai appelé le père de Jackson. J'ai dit, Daniel, il faut aller à l'enfant juste maintenant. Il y a un accident grave. Je sais pas si j'ai aucun détail, mais il faut se rendre là.
Et votre conjointe est décédée pratiquement sur le coup. Vos deux enfants avaient des blessures graves. Et oui. Ils sont décédés quoi, vendredi, au cours de la fin oui. de semaine?
Mm-hmm. Exact. Ouais. Les deux enfants étaient dans le coma. Puis c'est ça qui était frappant. En fait, les quatre n'ont en tout cas sont encore tous beaux. Les enfants sont beaux. Ma fille était elle avait l'air plus maganée à jouer avec son chien qu'après l'accident. Aucune graphine, pas de bleu, pas rien. Je vais parler un peu au pire là, en allant à traumatologie à l'enfant Jésus. Là. On peut voir de tous les cas. Là. Mais la première fois que quand je suis arrivé dans la salle en traumatologie où elle était observée, j'en revenais pas. Je pensais que ça allait être un miracle, peut-être. On gardait espoir jusqu'au dernier moment. Parce que quand j'ai vu les photos de l'auto sur mon téléphone avant de voir ma fille, j'ai dit, oh là là, s'ils survivent à cet impact-là, c'est un miracle. Puis en voyant ma fille en traumato, je me dis, crème. Peut-être que c'est un miracle ou peut-être que, je sais pas, elle avait aucune marque externe. Donc, c'est ça. Ça a été, puis après ça, on a su quelques minutes plus tard qu'il n'y avait plus d'activité cérébrale. Donc, c'était la fin pour les deux enfants imminente. C'est juste leur corps qui ont gardé leur corps en vie pour le don d'organes.
Vous avez rendu hommage, salué le travail des gens qui sont intervenus de l'hôpital. Tout le personnel qui, dites-vous, a fait un travail rigoureux, professionnel, avec beaucoup de compassion.
Oui, absolument. Non, les gens du CHU de Québec, c'est des héros de la société. Là. On critique le système de santé. On dit, peu importe. Moi, j'étais servi par des gens dévoués, passionnés. Le cœur gros comme celui de ma fille. Puis, j'ai eu une expérience vraiment particulière et incroyable avec des gens incroyables tout le long du parcours. Absolument.
Vous allez vivre votre deuil, puis il y aura un procès à travers tout ça. Avez-vous l'intention d'y assister? Quels sont vos sentiments face à celui qui a causé, je dirais, qui a brisé votre vie puis brisé votre famille?
Ouais, je sais pas trop comment c'est pas clair encore comment je vais l'approcher pour l'instant. Je dois composer un petit peu avec la belle famille, là, qu'eux aussi ont des souhaits par rapport à ça, d'y assister. Personnellement, moi, je sais pas, j'ai pas encore fait ma tête, là, par rapport à si je vais faire quoi par rapport au procès, à quel point je vais être présent ou non, là, c'est encore trop frais.
Puis, est-ce que je comprends, là, puis vous me direz si c'est pas ça, là, que vous avez pas de la haine à l'endroit de l'accusé parce que quoi, la haine, ça va vous détruire plus qu'autre chose, ça aide pas?
Ben, j'aime mieux mettre mon énergie à sauver des vies, plus de vies, en prévention qu'en réaction, ou en punition envers cet individu-là ou d'autres, comme il y en a plein d'autres. Donc, si on peut faire en travailler ensemble pour prévenir davantage, je pense que c'est de l'énergie mieux investie que punir davantage ou changer les douleurs.
Oui. Je pense que ce que vous avez fait ce matin, en tout cas, ça va aider beaucoup de gens de prendre conscience parce que c'est épouvantable ce qui vous est arrivé. On ne veut pas que ça arrive à personne. Mais le fait de le partager avec nous ce matin et de la façon dont vous le faites, je me permets de vous rendre hommage, de vous dire de prendre soin de vous. Et on pense à vous. Merci, M. Lemieux.
Merci, M. Lemieux. Au revoir.
Et le témoignage de Jean-Dominique Lemieux, évidemment, vous fait réagir. Je lis le message de Ronnie qui nous écrit en disant « Quel témoignage de M. Lemieux, mes condoléances, mes pensées à cet homme et quel courage et la force qu'il dégage. » Et c'est la raison pour laquelle on vous demande ce soir, avez-vous déjà empêché un proche de conduire en état d'ébriété? Pour nous appeler, c'est le 514-790-9850, partout au Québec, le 1-866-790-9850. On a Diane qui est là. Bonsoir, Diane.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va, vous?
Oui, merci. Alors, c'est ça, moi, j'ai déjà empêché mon frère de conduire, mon beau-père et mon père, des gens autour de moi. À l'époque, comme je le disais, c'est que les gens buvaient et on n'avait pas les lois qui étaient aussi sévères. Et puis moi, mon expérience a été, d'une part, il y a comme deux volets, mais mon frère était vraiment intoxiqué et j'ai dû conduire la voiture avec son garçon qui avait à peu près 12 mois, 18 mois à l'époque. Et puis, j'essayais de quitter. Et puis, il essayait de prendre le volant. Puis là, j'ai mis les freins. Et il a carrément donné un coup de poing dans le pare-brise pour le fracasser. Et là, j'arrivais devant la base militaire à Saint-Hubert. Et j'ai arrêté. Puis là, la police militaire est venue.
Okay.
Et c'est ça, on a dû le raccompagner. Et la conclusion de tout ça, c'était une belle soirée qui a conclu avec un frère qui était en état d'ébriété et j'arrive chez moi et puis j'arrive pour voir mon copain qui est en état d'ébriété.
Ouais, une chance que vous étiez là, Diane, par exemple. Merci beaucoup de votre appel. On va devoir s'arrêter, évidemment, pour les nouvelles. Mais au retour, on prend vos appels. Avez-vous déjà empêché un proche de conduire en état d'ébriété? Comment vous avez fait? C'est quoi vos trucs pour justement faire en sorte que les gens ne prennent pas le volant s'ils ont pris de l'alcool? On va discuter maintenant avec Maître Marie-Pierre Boulet, avocate criminaliste, experte en facultés affaiblies et vice-présidente de l'Association québécoise des avocats et des avocats de la défense. Bonsoir, Maître Boulet.
Bonsoir.
Dites-moi, quand on écoute ce que Paul a fait, je pense que c'est peut-être la bonne chose, là, quand on n'arrive pas à arrêter quelqu'un de consommer, finalement, on y va directement avec les autorités et ça se fait souvent que des gens se font prendre de cette façon-là.
Vous avez tout à fait raison. Dans plusieurs dossiers, on va lire que la raison pour laquelle les policiers ont intercepté un individu, c'est un appel au 911. Donc, une dénonciation du public. On a vu des employés de restaurants. Vous savez, le service au volant, la personne arrive, elle a un comportement particulier. Les employés vont appeler d'autres usagers de la route, des gens qu'ils connaissent. On voit ça régulièrement là, dans les dossiers.
Mais quand on parle des conséquences, là, elles sont nombreuses quand on se fait arrêter. Si vous voulez nous raconter un petit peu, là, c'est quoi l'ordre? L'arrestation, comment ça se passe exactement?
Bien, j'ai entendu quelqu'un un petit peu plus tôt dire, vous savez, je pense que c'était par texto, vous savez, quand on a subi les 10 000 quelques dollars de conséquences, puis le dossier criminel et tout ce qui vient avec. Effectivement, si quelqu'un reconnaît sa culpabilité demain matin à une infraction comme ça, là, donc il va plaider coupable, il a conduit avec les capacités affaiblies, on parle là, de pas quelqu'un qui a blessé des gens ou qui a causé la mort. Là. Vraiment, il s'est simplement fait prendre, puis il a dépassé la limite. Effectivement, on estime les coûts à même plus que 10 000 $ Donc, on les arrondit à 10 000, mais l'amende en partant est de 1 000 plus certains frais. Au niveau de la SAC, vous avez une obligation de mettre une machine dans la voiture. Il y a des évaluations qui vont être faites avec la SAC pour vos habitudes de consommation, pour savoir est-ce qu'on vous redonne immédiatement votre permis ou on prolonge le temps avec l'antidémarreur qui est la machine ou la balloune, comme on appelle communément. Donc, tout ça, c'est des frais. Les assurances vont doubler. Vous allez avoir des refus d'assurance. Tout ça mis ensemble, ça fait environ 10 000 $
C'est incroyable.
Pour une standard, comme je vous dis, là. Si vous ajoutez des blessures, des morts, etc., ben là, on est dans une toute autre catégorie qui nécessairement implique la prison, là.
Oh oui, non, c'est ça. Puis quand vous parlez de l'antidémarreur, puis tout ça, c'est pour une période de combien de temps, généralement, là?
Ben, en fait, minimalement, c'est une année. Donc, vraiment, le minimum, ça va être une année. Je vous dirais qu'en général, les gens s'en sortent pas beaucoup à une année. Là, ça va plus être entre 1 et 5 ans. À la deuxième infraction, c'est à vie. Ça, ce sont des changements qui sont intervenus en 2018 dans la loi. C'est important, les gens le savent pas. Mais la deuxième infraction, la machine, c'est à vie dans la voiture. Et vous savez, c'est pas gratuit, ça, non plus, une machine dans la voiture. C'est $100 par mois. Et $100 par mois, et pour plusieurs personnes, ça fait un gros trou dans le budget, là.
Hey, je comprends. Mais vous, est-ce que vous avez des témoignages, justement, de clients qui, par la suite, après une première infraction comme ça, se sont dit, hey, là, c'est terminé, là, j'ai vraiment compris le message?
Bien, la majorité, je vous dirais, c'est ce qu'ils me disent. C'est sûr que je les accompagne pas dans leur vie. J'ai pas beaucoup de retours d'appels de personnes qui vont me rappeler pour avoir commis une deuxième infraction. Là, je dois dire que c'est vraiment l'exception. La majorité, effectivement. Puis ça a un effet pas juste sur la personne qui a été arrêtée, mais tout son entourage. Parce que souvent, on se dit, les lois sur l'alcool au volant sont pas assez sévères. Quand ça arrive à votre enfant, à votre oncle, à votre père, là, vous dites, attends un peu, là. On parle d'un dossier criminel pour ça. Un dossier criminel, là, je veux dire, faut vraiment pas le banaliser, mais c'est une conséquence très grave sur notre vie, là. Ça affecte un paquet de volets de notre vie. Donc, il y a ça, il y a les amendes, là. On finit par même dire, ben, coudonc, la personne, là, elle peut même plus aller travailler, elle a plus de permis de conduire. Imaginez, il est camionneur. Il faut qu'il mette un antidémarreur dans son camion, tout véhicule qu'il va conduire. Il y a des compagnies de transport qui voudront pas. Il y a des compagnies d'assurance qui voudront pas assurer un camionneur qui a une machine dans l'auto.
Ouais.
C'est un véritable casse-tête. Et pour vrai, ce qui est parfois malheureux, c'est que ces gens-là perdent littéralement leurs moyens de subvenir à leurs besoins, là, dans certains cas.
Donc, les conséquences, c'est ça, sont outre les 10 000 $ dont vous me parlez, là, carrément.
Oui, c'est beaucoup plus large. Puis, comme je vous dis, ça a un effet sur la famille, sur l'entourage, parce qu'eux, quand ils voient les conséquences, ils se disent, oh mon Dieu, je pensais que... Souvent, les gens, ils pensent plus que ça va être, je vais avoir la machine, je vais avoir une amende, comme un constat d'infraction. Mais non, c'est une infraction criminelle. Puis ça, c'est souvent ce volet-là qui fait beaucoup paniquer les gens. Quand on leur explique les conséquences, ils seraient prêts à payer des milliers de dollars pour éviter le casier judiciaire.
Ouais, c'est ça, pour revenir en arrière.
Ça vient avec. Oui.
Maître, vous voulez rester avec nous? On va discuter tout de suite avec Martin, qui est au bout du fil. Bonsoir, Martin.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous, est-ce que vous avez déjà empêché un proche de conduire en état d'ébriété?
Non, en fait, moi, c'est le contraire. C'est des gens qui m'ont déjà empêché de... ils ont essayé de m'empêcher de conduire en état d'ébriété.
OK. Puis comment vous avez réagi?
J'ai fait à ma tête, puis effectivement, j'ai été arrêté.
OK. Puis est-ce que Maître Boulet vient de nous décrire, là, puis tout ça, la spirale infernale un petit peu là, de l'arrestation, puis vous avez passé par toutes ces étapes-là?
Oui, absolument, absolument. Puis donc, tout ce que Maître dit, c'est effectivement vrai. Moi, en fait, lors de mon arrestation, j'ai passé 5 jours à Rivière-des-Prairies,
okay.
En prison. Puis ensuite, bon, perte de permis, tout ça. Puis les frais qui s'y attachent, perte d'emploi. Ça a été... Ça a été très, 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 très laborieux, là, tout ça.
Ça fait combien d'années de ça, Martin?
Ça fait 7 ans.
OK. Puis là, est-ce que ça a complètement changé votre rapport avec l'alcool puis la conduite depuis ce moment-là?
Ah oui, absolument. Absolument, oui.
Puis est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne personne pour sensibiliser les autres? Est-ce que, justement, vous en parlez autour de vous ou c'est quelque chose que vous voulez pas trop jaser?
Des fois, on va en parler à la blague, là, plus que sérieusement, là, disons, mais oui, non, je pense que c'est quelque chose qui est important, là, parce que c'est, même si on n'a pas, comme Maître le disait un petit peu plus tôt, là, même si on n'a pas été impliqué dans un accident ou bon, causé des torts à d'autres personnes, il reste que, d'un point de vue personnel, là, c'est tout ce que monsieur a parlé, là,
ouais.
C'est 100% vrai, là. Puis, on parlait de peut-être un an, là. Je vous dirais que moi, c'était 5 ans.
Oui, quand même.
Pour une première offense, c'était 5 ans.
OK.
Donc, c'est pas un an de peut-être avoir un appareil dans l'auto, là. Non, non, c'est beaucoup plus que ça maintenant, puis ça vaut pas la peine. Moi, vraiment, qu'on vit dans des villes, dans des milieux urbains, mm-hmm. ou quoi que ce soit, là, bon, regarde, il y a des taxis, il y a des amis, oui. il y a, bon, il y a
On peut appeler un proche. Oh oui, non, c'est sûr. C'est
exactement,
sûr.
Là, ça vaut pas le risque, là, puis... Non, effectivement, tout ce que Maître dit, là, c'était tout à fait vrai, puis les frais sont astronomiques, puis non, il a entièrement raison.
Merci beaucoup, Martin, d'avoir appelé. Merci ça de votre témoignage. Plaisir. On va discuter avec un autre Martin maintenant. Bonsoir, Martin. Martin, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Oui, donc vous, est-ce que vous avez déjà empêché quelqu'un de conduire en état d'ébriété?
Non, mais moi, j'ai... Ça m'est arrivé, oui, mais j'appelle plus pour donner peut-être deux solutions.
Okay.
À mon avis, il serait pertinent de savoir pour les gens qui voudraient partir avec leur véhicule en état d'ébriété. C'est que de un, il y a beaucoup de bières sans alcool qui se font par des microbrasseries qui sont super bonnes. Ça peut être une alternative au lieu de justement s'empiffrer d'alcool puis de virer sous puis prendre son auto. Ben sachez qu'il y a des bonnes bières sans alcool maintenant qui sont en vente. Ça, c'est première des choses. Deuxième des choses, c'est que pendant le temps des fêtes, Oui, exactement. Excusez. Il y a des rouges qui existent. Pourquoi les rouges? Pourquoi ça n'existe pas à l'année longue?
Oui, il y a d'autres services qui sont offerts, mais qu'il faut payer, là, comme par exemple.
Oui, mais on n'entend pas parler. Il n'y a pas de publicité,
c'est
vraiment.
Vrai.
Il y a pas. Il devrait avoir une escouade. Il devrait avoir plus de publicité pour ça, pour dire qu'il y a des gens qui sont là. Il y a du monde qui font ça à l'année.
Oui, oui, qui peuvent vous aider.
Ça pourrait être une bonne solution.
Non, vous avez raison. Ben merci beaucoup, Martin, de votre appel. Puis on va s'arrêter un instant, évidemment. On s'en va à la pause. Au retour, on va poursuivre notre discussion avec Maître Boulet, avocate criminaliste, experte en facultés affaiblies. Si ça vous tente de vous joindre à notre conversation, avez-vous déjà empêché un proche de conduire en état d'ébriété? 514-790-9850 ou encore le 1-866-790-9850. Et notre sujet de tribune ce soir, on vous demande si vous avez déjà empêché un proche de conduire en état d'ébriété. Puis on se rend compte finalement que, ben, soit que oui, c'est déjà arrivé ou que d'autres ont réussi à empêcher quelqu'un qui l'a fait. T'as des réactions à nous faire entendre ici?
Oui, beaucoup. Il y a une personne qui nous écrit via le 98985 qu'un ami a une machine, donc la fameuse, l'éthylomètre, là, dans sa voiture qui l'empêche de démarrer exactement si la personne a de l'alcool, si elle a bu de l'alcool. Et cette personne nous dit, lors de party, quand il boit trop, il veut qu'on souffle dans sa machine pour partir son auto. On refuse pour sa sécurité, celle des autres. Finalement, on le ramène chez lui. Et le lendemain, il revient chercher son auto.
Imagine, mais ça, là, il y a peut-être des gens qui le font pareil. On s'entend, qui décident de...
Possiblement. On a quelqu'un qui dit « Je n'ai jamais eu besoin d'empêcher quelqu'un de conduire. Par contre, à deux reprises, j'ai fait arrêter des gens qui conduisaient en état d'ébriété, j'avais des doutes puisqu'ils avaient une conduite erratique. Mm-hmm. J'ai donc appelé la police et ils ont été arrêtés. » Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Tu sais, tu regardes, tu es sur l'autoroute.
Ouais.
Et là, tu vois d'une voie à l'autre. Là, tu dis « C'est-tu le cellulaire? » Étoile 4-1-4-1.
Exact.
On ne sait jamais ce qui arrive, mais on dirait qu'on se sent mieux, on se sent mieux par la suite. Et tu sais ce que je me rends compte? Beaucoup d'appels de gens qui ont perdu leur permis. C'est énorme. Même sur la messagerie texte, il y a beaucoup de gens là qui
ont été arrêtés comme ça.
Qui ont été arrêtés comme ça. Donc, alors, je te laisse poursuivre.
On va discuter avec Maître Boulet parce que, justement, il y a un auditeur, Maître Boulet, qui nous écrit, qui demande si les lois sont si sévères, pourquoi les gens comprennent pas, continuent de boire, conduisent. Lui, il dit, d'après moi, c'est pas assez sévère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ah ben moi, c'est clair que je vais vous dire que c'est assez sévère. Là. Au contraire, moi, je considère que ce que je vous disais plus tôt, là, l'obligation ou la peine minimale qui vient avec le fait d'un casier judiciaire pour alcool au volant, il y a certaines circonstances là où, quand même, l'imposer un casier judiciaire à certaines personnes, c'est littéralement dévastateur pour leur vie là,
ouais.
entière. Alors, je pense pas que c'est pas assez sévère. Je dis pas que c'est trop sévère dans le sens où c'est clair que ça doit avoir un effet dissuasif. Moi, ce que je déplore comme avocat de la défense, c'est que justement la loi prévoit des peines minimales, puis on peut pas aller en bas, on peut pas éviter les casiers judiciaires, là, même en négociant, même avec des circonstances particulières, parce que c'est pas tout le monde non plus à qui ça arrive dans des circonstances là très en fait très dénonçable où il y a des circonstances qui peuvent quand même s'expliquer. Mais ceci étant dit, peut-être qu'effectivement les gens sont pas assez au courant. Il y a un principe en droit qui dit « nul n'est censé ignorer la loi mm-hmm. ». C'est un beau principe, sauf qu'est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exact? Est-ce que le gouvernement en fait assez pour informer les gens? Oui, on voit des annonces comme quoi c'est grave, puis il y aurait des conséquences, mais est-ce qu'on connaît véritablement l'ampleur de celle-ci? Je vous le disais plus tôt, quand ça nous arrive à nous ou à un proche, je pense que c'est là où on a le meilleur exemple et c'est là que le message passe.
C'est là que le message passe et je pense aussi à la légalisation du cannabis. Est-ce que vous avez vu des effets depuis qu'on a légalisé cette drogue-là?
Ça, je vous dirais que les statistiques sont un peu trompeuses puisque auparavant, les policiers utilisaient peu leur méthode d'enquête là, relativement à la drogue et à la conduite automobile. Mm-hmm. Alors, c'est pas d'hier que les policiers connaissent les épreuves de coordination de mouvement et qu'il y a des agents évaluateurs qui peuvent évaluer donc la présence de drogue, mais c'était très peu utilisé. On avait très peu de policiers formés pour le faire. Maintenant, il y a plus de policiers formés, alors nécessairement, il y a plus d'arrestations en lien avec ces infractions-là. Je ne pense pas que la légalisation augmente en fait là, le nombre de personnes qui vont consommer et conduire, ni même je pense que ça a le même. Je pense même pas que les statistiques démontrent que ça a augmenté le nombre de consommateurs. Mais oui, c'est une préoccupation parce qu'au niveau de la drogue, la façon de la détecter, c'est quand même très différent. Et il faut se dire que quand même quand c'est légal, ça veut dire qu'on peut en prendre quotidiennement. Et là, ça fait une grande interrogation sur avant de conduire, j'ai pris un produit qui est légal, donc le cannabis. Ouais. Mais là, où est la ligne, où est la limite? Elle n'est pas très claire, cette ligne-là.
Non, pour le cannabis, mais il y a quelqu'un qui nous écrit qui dit « Je comprends pas pourquoi les voitures ne viennent pas encore avec un antidémarreur. Le jugement d'une personne en boisson est altéré. On peut pas se fier sur la logique d'une personne qui a pris un verre. »
C'est vrai, ça, on a beaucoup de discussions là-dessus, souvent entre avocats de la défense. Justement, on se dit qu'à partir de là, il faudra changer de créneau. Hein. Vous avez dit experte en alcool au volant, mais je vais fermer boutique sur cette expertise-là.
Ouais.
Parce que vous avez raison, ça, c'est clair que ça, c'est une question légitime, c'est une question qui se pose. Par contre, c'est sûr qu'il y a toute la question des frais rattachés à tout ça, la gestion, c'est un terrain, j'ignore même si au niveau politique, au niveau législatif, on s'est déjà posé cette question-là. Vous savez, le droit de conduire, c'est un privilège. Et ça, les gens, quand ils nous appellent, ils le comprennent pas au départ. Hein. Ils disent, j'ai le droit de conduire, c'est mon permis de conduire. Quand on appelle à la SAAC, là, c'est un élément qui est très, très clair chez eux. Conduire, c'est un privilège. Alors, vous devez respecter nos obligations et on va vous le permettre. C'est pas un droit que vous avez. Alors, c'est une question qui est légitime. La question se pose, à savoir pourquoi les véhicules ne viennent pas avec un antidémarreur. Il existe des antidémarreurs en vente libre, d'ailleurs. Hein? Moi-même, je m'en suis procuré un.
Okay.
Chez Alco Prévention Canada, il y a différentes compagnies où on peut se procurer des antidémarreurs. Ben, en fait, c'est pas un antidémarreur, c'est un détecteur d'alcool, donc un appareil de détection d'alcool.
Ça fonctionne bien.
Qui va donner. Oui, moi, pour ma part, ça fonctionne bien. Il faut s'assurer de l'entretien minimum une fois par année. Puis, ça fonctionne très bien.
Ben, Maître Boulet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Donc, je rappelle votre titre. Vous êtes avocate criminaliste, experte en facultés affaiblies, vice-présidente de l'Association québécoise des avocats et des avocates de la défense. Merci beaucoup pour nous avoir éclairé, puis je vous souhaite une bonne soirée.
Demain, Mme Leboeuf.
Merci, au revoir. On va discuter avec Normand maintenant. Bonsoir, Normand.
Bonsoir.
Alors, vous, est-ce que vous avez déjà empêché quelqu'un comme ça de conduire en état d'ébriété?
J'ai déjà empêché quelqu'un de conduire en état d'ébriété, mais en réalité, c'est peut-être moi qui aurais dû être empêché de conduire en état d'ébriété.
OK, donc vous avez été arrêté ou...
Oui, moi, j'ai été arrêté. J'ai été condamné pour une garde légale, mais j'ai souvent et très souvent conduit en état d'ébriété.
OK, quand vous me dites condamné pour une garde légale, ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire que j'étais couché dans le véhicule, puis mon beau-frère a mis les clés dans le véhicule pendant que je dormais.
Okay.
Puis j'avais une alarme sur le véhicule, l'alarme m'a parti. Puis les policiers, les citoyens proches ont appelé, puis les policiers sont venus me réveiller. Puis j'ai été condamné pour une garde légale.
OK. Puis à ce moment-là, ça, vous êtes condamné pour combien de temps, là?
Ça, j'ai été condamné pour un an, parce que c'était un an dans le temps. Vous pouviez avoir au bout de 3 mois les kilomètres.
Oui.
Puis fallait que vous passiez là dans l'espace de l'année là un test vis-à-vis la consommation auprès d'intervenants, ces choses-là. Puis moi, j'ai été honnête avec. Puis la dame m'a dit, ben tu vas reconduire en état d'ébriété. Je dis, j'ai jamais conduit en état d'ébriété, ce qui était faux. Mais ça a été bon pour moi parce que, regardez, là, je me suis fasciné avec la dame. Puis j'ai dit, ouais, ben la machine, je la garde. J'ai gardé la machine 11 ans. Mais wow. Je l'ai encore. OK, ça fait 11 ans que je l'ai. Sauf que j'ai dit que c'était pour la garder tant aussi longtemps que j'étais pour boire. J'ai cessé de boire au mois le 25 juillet, pas qu'il vient de passer, l'autre année d'avant.
2020, oui.
J'ai cessé complètement de boire. Fait qu'au début de l'année, je me suis réinscrit pour le programme qui a duré 6 mois. OK, ce programme-là, t'as des choses à faire, des recherches à faire, puis tout, pour pouvoir récupérer ton permis. Puis moi, en plus, j'étais suivi à cause que j'ai un bébé en bas âge, puis l'ex-conjointe de ma conjointe nous faisait des problèmes, fait qu'on a eu la DPJ.
Okay.
Mais la DPJ m'a obligé à aller passer des tests dans un laboratoire, des tests de détection de drogue et des tests de détection d'alcool.
Okay.
Parce que même si tu as bu aujourd'hui, avec les tests qu'ils font, ils peuvent reculer, là,
dans
je pense
le temps,
que c'est deux. Oui, oui, dans le temps, pour mm-hmm. savoir ce qu'il t'a bu. Puis moi, d'après moi, là, les personnes qui sont condamnées pour une conduite en état d'ébriété, moi, comme là, je l'ai fini le programme, puis j'ai reçu, justement, aujourd'hui, j'ai reçu mon nouveau permis de conduire.
Okay.
Avant ça, j'avais une condition I. Maintenant, j'ai une condition X. Ça veut dire qu'à partir du 30 août de l'année prochaine, je vais récupérer mon permis de conduire normal.
Ah, ben c'est bon. Ben Normand, je vous souhaite bonne chance. Merci d'avoir pris le temps de nous appeler ce soir. Puis lâchez pas, ça fait quand même plus d'un an là, que Normand est sobre. On va jaser avec Sylvie maintenant. Bonsoir, Sylvie.
Bonsoir.
Bonsoir, vous. Est-ce que vous avez déjà empêché quelqu'un de prendre le volant en état d'ébriété?
Oui, ma soeur, en plein party de famille, je la voyais s'en aller, puis elle disait pas bye à tout le monde.
Okay.
Alors là, j'ai fait signe à mon frère et ma soeur. Moi, j'ai mis le pied sur le muffler, j'ai bouché le muffler, elle a essayé de partir, mon frère dit m'allait te reconduire, tout ça, et le char, c'est impossible qu'il parte. C'est le pied sur le muffler.
Ah, OK.
Alors là, elle s'est découragée après 20 minutes. Elle a donné les clés à mon frère, on a enlevé le pied puis elle est partie la conduire. Alors, ça s'est passé comme ça.
Mais est-ce que par la suite, votre soeur, est-ce qu'elle vous a remercié? Est-ce qu'elle était fâchée contre vous?
On lui a même pas dit. On disait de faire attention sur la route subtilement et de ne pas boire. Parce que moi, je savais que je travaille beaucoup. Je prends 2 ou 3 bières, je peux être saoule.
Mm-hmm.
Alors moi, dans ce temps-là, je prends le taxi, ça coûtera ce que ça coûtera. Je prends le taxi parce que je me dis, si je pogne un accident ou si je pogne une étiquette, ça va être certainement au-delà de 100$.
Clairement.
Alors, moi, c'est ça que je me dis. Que je paye 75$, 50$, 20$, j'aime mieux payer un taxi, retourner demain, chercher un autobus s'il faut.
Ben, c'est ça.
Ou avec quelqu'un, mais c'est ça.
Vous prenez pas de chance. Ben merci beaucoup Sylvie de votre appel et on va s'arrêter un court instant. Évidemment, on va aller à la pause et au retour, ben j'aimerais vous entendre justement parce que là on parle de sœur, frère. J'ai décidé finalement d'enlever les clés à quelqu'un, mais tu sais des fois ça peut être quelqu'un qu'on connaît un petit peu moins bien, avec lequel on est un petit peu moins à l'aise de le faire. Alors j'aimerais entendre vos témoignages. Avez-vous déjà empêché un proche de conduire en état d'ébriété? 514-790-9850. Partout au Québec, c'est le 1-866-790-9850. Et ce soir, on jase d'alcool au volant. En fait, on vous demande, avez-vous déjà empêché un proche de conduire en état d'ébriété? Il y a Émilie qui nous écrit, qui nous envoie un courriel en disant « Mon oncle est présentement en prison pour 2 mois. C'est sa 7e balloune. Son père a tué 2 enfants il y a 60 ans à cause de l'alcool au volant. Malgré ça, ce ne sera pas sa dernière. C'est malheureux. On a tout fait. » Incapable de l'arrêter.
D'autres témoignages hyper touchants. On a quelqu'un qui nous écrit « Le papa de mes enfants est décédé en état d'ébriété sur sa moto. Terrible accident, mais il était la seule victime, entre guillemets, heureusement. L'alcool au volant est un fléau. Pendant des années, je me suis fait dire que j'étais trop heureuse et que je paniquais pour rien à cause de la vitesse ou des facultés affaiblies. » C'est vrai que ça laisse des traces dans ce sens-là. On a Mehdi qui dit « Moi, je connais des serveuses et barmaids qui font une job exceptionnelle à pas en servir de l'alcool à c'est leur vrai. Clientèle. Elles les empêchent de partir avec leur voiture en donnant les clés aux chauffeurs de taxi. » On avait des gens sur notre messagerie texte, mais sur Facebook qui identifiaient des gens qui taguaient, dans le fond, des gens en disant « Oui, est-ce que tu te souviens ce fameux party de bureau où on avait demandé à un tel d'aller le mettre à l'hôtel, puis tout ça, parce qu'il pouvait pas conduire? » Puis les gens se répondaient. Donc, ça veut dire qu'on se souvient de ces parties-là d'une certaine façon. Il y a des merci aussi le lendemain. « Hey, merci, hein? Je sais que je pense que j'étais un petit peu obstinée hier, mais merci de m'avoir foutu dans l'auto de taxi. »
C'est ça. Oui, puis je pense que tu parles des entreprises. Nous, ici, quand on avait des parties de Noël, dans le temps qu'on en faisait, on recevait des billets de taxi comme ça pour ne pas prendre de risques. Ça se fait de plus en plus.
Ben oui, tout à fait. Il y a Cool Taxi, surtout pour les jeunes. Oui. Il y a quelqu'un qui nous dit « Moi, je me fais reconduire par 0.08 depuis le début de leur mandat, autour de 94, le plus beau principe dû aux nouvelles lois. » Tantôt, quelqu'un nous parlait de nez rouge. Ça, c'en est un. On devient membre, finalement. C'est un peu le même principe. Il faut aussi se responsabiliser là, un certain moment. Il y a tellement de façons de faire, dormir chez la personne, notamment, ou juste se responsabiliser puis boire peu.
Ben oui, il y a quelqu'un qui nous parlait des bières sans alcool. Là. C'est vrai, il y a tellement de choix maintenant.
Tout à fait.
On peut trouver autre chose. Merci Justine, on va discuter avec Denise qui est là. Bonsoir Denise.
Bonsoir.
Alors vous, est-ce que vous avez réussi déjà à empêcher un proche de conduire en état d'ébriété?
Oui, à quelques reprises, même Madame Leboeuf, lorsque je faisais des parties du jour de l'an, même avant la réglementation sur l'alcool.
OK.
Les gens devaient soit arriver en taxi, on allait les chercher et ils quittaient en taxi, ou ils dormaient à la maison.
Ah, c'est parfait, ça.
Sinon, ben ils n'étaient pas invités.
Puis comment les gens réagissaient, c'est ça? Les gens étaient tout à fait d'accord
très
avec...
Très collaborateurs, ben oui. Oui, très collaborateurs, parce que justement, dans la famille à l'époque, ça date quand même de plusieurs années, on savait qu'il y avait certaines personnes, pas tous, certaines personnes qui avaient un problème avec justement l'alcool. Fait que c'était la règle. Puis, ces gens-là, effectivement, collaboraient très bien. Puis, j'ai eu aussi avec des collègues et des participants un tournoi de golf dans les années par après.
Oui.
Qu'effectivement, je voyais qu'ils n'étaient pas aptes à conduire et je les ai approchés et j'ai fait la mention que je crois pas que vous êtes apte. C'est certain que la personne croyait que oui,
ben,
mais...
c'est ça. Souvent, c'est ça. Mais comment ça a été reçu, Denise?
Mais je vous dirais qu'à l'origine, effectivement, la personne était pas contrariée, mais me contrariait à l'effet que, oh oui, je suis capable de conduire, je suis capable de me rendre à la maison. Mais j'ai insisté et j'étais membre de, justement, un des... extrême limite 0.08,
oui.
Puis il y a aussi 0.08.
Mm-hmm.
Fait que donc, j'ai suggéré à la personne, parce que là, c'était toujours le phénomène, ben il faut que je revienne chercher ma voiture et tout. Fait que je dis, regardez, moi, je suis membre, fait que je vais appeler pour vous.
Wow.
Donc, ils vont vous ramener à la maison avec votre voiture. Puis, le coût de la... autre que le coût d'être membre, c'est à peu près le même coût qu'un taxi. Par contre, on a notre voiture le lendemain matin.
Ça. C'est souvent la voiture, hein, je pense, qui fait en sorte que les gens veulent pas veulent avoir leur voiture avec eux, là.
Eh bien oui, puis aussi, dépendamment dans quel contexte, c'est que là, disons, la personne, tu sais, le tournoi de golf est sur la rive sud, la personne habite sur la rive nord,
ben,
ou l'inverse. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment un service. Pour les gens, surtout, là, tu sais, justement, là, en affaires, où ce que justement, il y a des tournois de golf, des soupers. C'est certain qu'avec la pandémie, il y en a moins actuellement. Mais dans le passé, il y a beaucoup de situations qui font en sorte qu'on se retrouve à, même si c'est un ou deux verres, on est quand même, même si on n'a pas abusé de l'alcool, on est à risque pour soi-même et pour les
Certainement.
Autres.
Certainement. Merci beaucoup, Denise, parce que c'est vrai, des fois, tu sais, le 0.08, là, c'est bien beau de dire, ah, ben, j'ai pris juste un verre ou deux verres, mais on est mieux de pas prendre de chance, on le sait jamais. On va discuter maintenant avec François qui est là. Bonsoir, François.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va bien, vous?
Ben oui.
Est-ce que vous avez déjà réussi à empêcher un proche de conduire en état d'ébriété?
Non, mais on m'a empêché deux fois, par exemple. Okay. Ben, la deuxième fois, c'était pas vraiment empêché, mais c'était un très bon conseil de policier, fait que je l'ai écouté. Hein.
Oui, j'imagine. J'imagine, mais dites-moi, est-ce que ça vous a fait réfléchir aussi à, ben, justement, à votre consommation quand vous prenez un verre, on touche pas au volant, vous avez changé vos habitudes ou?
Oh oui, ben, je suis devenu camionneur, fait que ça fait 6 ans que je touche plus bien à ça, là, parce qu'ils peuvent nous appeler n'importe quand pour remplacer, puis fait que on prend pas de chance, on en prend plus. Là.
Mais vous, en étant camionneur, justement, vous devez en voir sur la route, là, des fois, des véhicules qui ont une conduite erratique?
Pas tant. C'est les cellulaires, le fléau total. OK. Les cellulaires, c'est effrayant, mais l'alcool, je n'ai pas vu. Fait que c'est pour... Ben, c'est ça. Bon. Je n'ai pas vraiment vu.
Ben, c'est bon. Merci beaucoup, François, de votre appel.
Ben, merci.
Au revoir.
Ben, avez-vous... vous savez pas hein, si vos... Le monde qui vous texte en disant oh, « moi, j'ai pété une balle, où est-ce qu'ils deviennent? » Parce que je suis sûr que dans un milieu rural, c'est pas mal plus haut que ouais. dans une ville. Convaincu, ouais. parce que moi, j'ai vécu les deux.
Okay.
Je demeurais en campagne, je suis venu au monde en campagne, mais j'ai été étudié à Laval. Mm-hmm. Je me suis fait une petite troupe d'amis à Laval. Puis beaucoup, tout le temps, à chaque fois que j'allais veiller avec eux autres, il y avait un chauffeur désigné, il y avait... Tandis que quand je retournais chez ma mère toutes les fins de semaine en campagne, et c'était effrayant, là. Trois quarts de mes chums de brosse, là, de bord, il y avait tous des ballons dans le champ.
Ah oui, non, mais vous avez peut-être raison, parce que franchement, c'est ce que M.C. Gilles, qui habite en campagne, nous disait un peu plus tôt avec Patrick Lagacé, que des fois, oui, quand on est en région, les gens, ils font un petit peu moins attention. On va parler avec Yvon maintenant. Bonsoir, Yvon.
Bonsoir, madame.
Alors, vous, de votre côté?
Moi, ce qui est arrivé, j'étais sur la route, puis il était quand même assez tard le soir. Puis le monsieur, il faisait, comme on voit dans les comédies de films, il faisait les deux accotements. Il partait de la droite, traversait les deux, s'en allait dans l'accotement à gauche, partait de la gauche, puis ça faisait une couple de kilomètres là, qu'il faisait comme ça. Fait que je suis monté jusqu'à sa hauteur. Là, quand je suis arrivé vis-à-vis de lui, je l'ai tossé pour que ça en aille dans le centre, au milieu. Okay. Comme il y avait beaucoup de neige, son char, il a calé tout de suite. Quand je suis arrivé, j'ai arrêté mon auto après ça, un peu plus loin. J'ai mis mes flasheurs. Là, j'ai été le voir. Il pensait que j'étais le policier. Ben, j'avais une lumière qui éclairait pas mal. Okay. Monsieur le policier, je m'excuse. J'ai échappé, et du coup ça, j'ai échappé mon crayon dans le char, puis je le cherche. J'ai dit, non, tu cherches pas ton crayon, t'es sous. Fait que là, j'ai dit, tu vas me donner tes clés. Là, j'ai pris ses clés, puis je les ai lancées plus loin dans le bardinge. Là, j'ai dit, il faut que tu débarques de là. Là, j'ai appelé la police. Ils s'en viennent avec une remorque. Puis, j'ai attendu que la police arrive. Quand la police est arrivée, ils ont ramassé le monsieur. Puis, ils sont partis avec... ils ont fait venir une remorque qui a ramassé son auto. De même, il n'y a pas eu de blessés. Ben, tout le monde ça. A pu rentrer en sécurité sur la route. Il n'a pas traversé de l'autre côté.
Non, c'est ça. Vous avez sûrement sauvé des vies ce soir-là, Yvon, là, clairement.
Peut-être, oui, sûr. Là, je trouvais qu'il poussait pas mal. Là,
non,
il y en avait pris beaucoup. Mais... D'ailleurs, quand il ouvrait la fenêtre, là, je pensais que j'étais à côté de la bouteille. Là.
OK. Bon, ben, ça donne une bonne idée. Merci beaucoup, Yvon, de votre appel. On va s'arrêter un instant. Au retour de la pause, on vous pose la question. Donc, avez-vous déjà empêché un proche de conduire en état d'ébriété? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que ça a fonctionné? On veut entendre vos témoignages. Restez là. Il y a quelqu'un qui nous a écrit sur la messagerie, Justine, je crois que CAA offre un service de raccompagnement à ses membres.
Tout à fait. Je viens de vérifier, je ne savais pas ça. Il y a un service de raccompagnement, effectivement, jusqu'à 25 km, c'est inclus. En haut de ça, il y a des frais. Mais oui, effectivement. Ça vaut la peine. Bon, évidemment, il faut toujours vérifier ces services-là de raccompagnement. Évidemment, avec la COVID-19, il y a certaines preuves qu'il faut peut-être démontrer, est-ce qu'il y aura le passeport vaccinal, mais sincèrement, je trouve que c'est un beau service. Et aussi, je te parlais de ça avant l'émission, taxi deux têtes, moi, c'est ce que je prends.
Je connais pas ça, moi.
Oui, taxi deux têtes, en fait, c'est deux chauffeurs de taxi qui arrivent, un stationne son taxi, donc il y en a un qui conduit ta voiture, l'autre te raccompagne, alors tu reviens à la maison avec ta voiture. C'est un peu comme Nez Rouge, mais c'est juste que tu payes le double du coût du taxi.
Mais ça sauve des
parce
vies.
Parce que puis, souvent, ouais. Tu remarqueras, les gens disent « J'ai besoin de mon auto demain. »
Ah, ça, clairement.
« J'ai besoin, je m'en vais travailler. Oh, je peux pas. » Ou « J'habite loin. » Dans ce cas-là, je pense qu'il y a une responsabilité aussi financière. À un moment donné, c'est mieux, un peu comme Maître Boulet disait, de payer ce double taxi que de payer les frais d'avocat et tout ce qui vient avec. On a quelqu'un qui nous écrit assez radical sur la messagerie texte. C'est tout simplement criminel sans génie. Ma solution est drastique, c'est d'amener les délinquants à la morgue ou à l'hôpital.
Pour qu'ils voient, exactement.
Pour voir ce que c'est un mort dans une collision mortelle avec l'alcool. Il y en a qui c'est pour la méthode plus dure.
Mm-hmm. Oui.
Comme
clairement.
Si, en fait, les lois, on l'a vu tout au long de l'émission, comme si les lois n'étaient pas assez sévères ou ne faisaient pas comprendre aux gens de ne pas agir ainsi.
Non, puis il y a Alain qui nous écrit qu'il, lui, est surveillant routier au ministère des Transports du Québec. Il dit « J'ai fait intercepter plusieurs automobilistes en état d'ébriété sur nos routes. » Donc, lui, il le voit beaucoup. Puis des gens comme Alain qui sauvent des vies comme ça, justement.
Imagine les signaleurs routiers qui travaillent de nuit. Les gens sur l'autoroute qui conduisent en été d'ébriété, eux, on s'entend, aucune protection.
Non.
Rien du tout, là.
Non, clairement. Puis il y en a eu des cas d'accident, peut-être pas en état d'ébriété, mais il y a quand même eu des accidents. Merci beaucoup, Justine. On va discuter tout de suite avec Maxime qui est là. Bonsoir, Maxime.
Oui, bonsoir.
Bonsoir à vous. Est-ce que vous
avez... Bonsoir, mesdames, Mes hommages.
Merci. Est-ce que vous avez déjà empêché quelqu'un de conduire en état d'ébriété?
Oui. Puis donc, moi-même aussi, je me suis déjà fait empêcher de conduire. En fait, j'appelais parce que, justement, avec le cas qui est arrivé là, récemment, j'écoute souvent votre poste de radio. Fait que, tu sais, je travaille beaucoup sur la route, donc j'en ai beaucoup entendu parler. Mm-hmm. Puis avec tout ça, avec votre émission, ben là, c'est ça, ça m'a motivé. En même temps, je voulais informer un peu les auditeurs. Je viens tout juste, en fait, c'est vraiment facile. J'étais sur Amazon, j'ai acheté un test, un éthylomètre ou éthylotest pour apprendre justement, pour pouvoir aider à gérer, disons, nos consommations pendant une soirée. Puis parce que moi, j'aime ça, prendre un petit verre une fois, un petit peu par-ci, par-là avec des amis. Puis j'essaie toujours de gérer ma consommation, mais tu sais, je ne sais jamais vraiment comment est-ce que je suis rendu. Si à un moment donné, moi, je pense que j'ai une bonne tolérance, mais en même temps, on dit que l'alcool, ça brouille un petit peu le jugement puis tout ça. Fait que avec tout ça, ça m'a comme donné le petit coup de pied derrière pour dire, gars, je vais commander l'appareil.
Donc là, vous l'avez commandé, mais vous l'avez pas reçu encore. Là.
Non, je l'ai commandé tantôt. En écoutant votre émission.
Ah, ben bravo!
Puis c'est pas dispendieux, là. J'ai googlé meilleur éthylotest. Ils m'en ont donné une coupe. J'ai pris le meilleur. Ça coûte 130$. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup d'argent.
Non,
pour
vous avez
pouvoir,
raison.
Pour pouvoir permettre de gérer comme il faut nos consommations puis d'être plus responsable, justement, par rapport à tout ça.
Ben, félicitations, Maxime, pour votre achat, franchement.
Donc,
un pas dans la bonne direction. Merci beaucoup de votre appel.
Ben, merci beaucoup.
Merci. On va jaser avec Patrick maintenant. Bonsoir, Patrick. Est-ce que vous êtes là, Patrick?
Oui.
Oui, donc vous, est-ce que vous avez déjà empêché quelqu'un de conduire en état d'ébriété?
Non, mais moi, j'ai déjà perdu mon permis par rapport à boisson.
OK.
En voulant faire une bonne action, je suis parti parce qu'il pleuvait. Je suis parti mener quelqu'un, puis... C'est là que je me suis fait prendre à la sortie d'un bar.
Ah, OK. Puis vous étiez, finalement, vous aviez dépassé le 0.08.
Oui. Oui. Mais, oui, j'ai perdu mon permis pour un an. Mais depuis ce temps-là, si je bois, je laisse mon véhicule à la maison, je prends soit le taxi ou je vais à pied. Puis...
Mais ça
le seul
ça,
temps
ça,
que
ça.
Je bois, c'est dans le temps des fêtes ou quand c'est la fête de la Saint-Jean.
Ah, OK. Ben, c'est bon. Mais non, c'est ça. Mais c'est de prendre les mesures, justement, pour pas que ça arrive encore. Merci beaucoup, Patrick, de votre appel.
Puis vous voyez, ça va faire 12 ans de ça.
Oh, wow! Ben, bravo. Bravo. Merci. Je vais vous lire un dernier petit texto. Justine aussi, un petit truc que j'ai appris. J'ai fait un speech, en fait, à mes garçons en prévention. C'est de déposer 200 $ dans un compte. Puis pour dire, si jamais vous prenez un verre avec des amis, personne conduit, tu commandes un taxi, un Uber, peu importe le prix, tu arrives sain et sauf à la maison pour tes amis également. Donc, de donner des sous comme ça en prévention pour pas qu'il y ait de drame.
Et je veux revenir sur ce que Maxime disait, l'éthylomètre, l'éthylotest. Ouais. Maintenant, ça peut être lié au téléphone cellulaire aussi. Fait qu'on peut le partager avec la famille. Moi, j'en ai effectivement dans ma famille, okay. Ça. Et c'est vrai qu'il faut le calibrer un peu comme Maître Boulet disait. Mais c'est pratique, même les gens qui ont peut-être une entreprise, ça vaut la peine d'acheter ces appareils-là. Monsieur parlait d'Amazon, mais il y en a même sur le site .08. Il y en a sur des sites canadiens également. Je pense que ça vaut la peine
d'aller jusque-là. De se sensibiliser soi-même, parce qu'on a des fois, on a l'impression que tout est correct, puis c'est pas nécessairement le cas.
Oui, c'est ça. Une journée, on a bu le même nombre de verres et ça dépend de ce qu'on a mangé, de la fatigue, etc. Puis on en a pas beaucoup parlé, mais les médicaments aussi, les antibiotiques.
Clairement, clairement.
Alors, soyez prudents.
Ben, soyez prudents, puis merci d'être là encore une fois ce soir. Merci de vous avoir confié, de nous avoir raconté vos histoires. Évidemment, on va reprendre ça demain soir. Un gros merci, évidemment, à Justine, ma partner. Un gros merci à Geoffroy Morin aussi derrière la console. Et on vous laisse avec Mario Langlois et les amateurs de sport qui seront là. Au retour de la pause, évidemment, les nouvelles, mais après ça, ce sera Mario et son équipe.